Il m'arrive parfois de faire du vélo, et il y a quelque temps, j'ai pris la voie verte qui part de derrière Montparnasse, place de Catalogne, et puis qui va dans la vallée de la Bièvre jusqu'à Massy. Et arrivé à Malakoff, j'ai vu sur un mur une grosse inscription, sur lequel un énorme graffiti, sur lequel il était écrit « Les témoins ont peur ». Je l'ai pris en photo, pour que... voilà. Les témoins ont peur. Je passais en vélo, j'ai eu peur du coup, en voyant cette phrase qui nous parle au plus profond de quelque chose qui nous touche souvent. C'est-à-dire que quand on est témoin d'un accident ou d'un délit ou d'un crime ou de quelque chose qui n'est pas terrible, on se dit, voilà, si je suis obligé à témoigner, ça me fait peur. Ça fait peur parce que, d'abord, ça peut compliquer la vie, etc., mais... est-ce que je vais aussi avoir des représailles, par exemple? Enfin voilà, avoir peur quand on est obligé de témoigner, c'est quelque chose que l'on ressent comme étant une réalité possible. Et la peur, vous le savez, c'est quelque chose, quand on l'a au fond de soi-même, qui est très difficile à dépasser ou à gérer même. Alors, j'ai eu très peur en voyant cette phrase, j'ai quand même continué courageusement mon chemin. Et puis, comme je ne sais pas si vous avez déjà pris cette voie verte, c'est un peu long pour faire une boucle par Versailles et tout ça. Alors, j'ai fait au bout d'un moment demi-tour et je suis revenu. Et du coup, je suis retombé sur la même phrase au retour. Et je me suis dit, mais cette phrase, elle résonne aussi avec ce mot témoin par rapport à ce qui nous habite en tant que chrétiens. Et nous qui sommes membres d'une église qui essaye d'être une église de témoins, voilà cette phrase qui me dit, les témoins ont peur, mais qui... résonne par rapport au fait d'être témoin de Jésus-Christ, ce qui est quand même pas quelque chose qui nous fait peur de suivre le Christ. C'est plutôt quelque chose qui est heureux, qui est joyeux, qui nous libère. Et en même temps, c'est pas toujours facile de témoigner. Et on a quand même toujours un peu cette petite peur qui nous prend aux entrailles. Alors, les témoins ont peur. Et cette phrase m'a habité un long moment. Je l'ai pris en photo en me disant un jour peut-être que je vais en profiter pour prêcher. Et puis il y a quelques jours, on a eu la première séance du groupe biblique du lundi soir. Une fois par mois, on se retrouve pour lire un passage biblique et puis échanger autour de ce texte. Et dans l'année, cette année, nous lisons le livre de Jérémie. Alors première séance, c'était le premier chapitre et c'était la vocation de Jérémie, le texte que Johanna vient de vous lire. Vous connaissez Jérémie, c'est un des prophètes les plus connus de la Bible. Il est connu en particulier parce que le livre de Jérémie, le livre qui porte son nom, c'est le deuxième plus grand livre prophétique en nombre de chapitres dans la Bible. Le plus important, c'est Ésaïe. Et ensuite, il y a Jérémie, 52 chapitres. Donc c'est un livre sur lequel on peut tomber assez facilement quand on feuillette la Bible, plus facilement que Abdias ou Habacuc ou... qui tiennent deux pages, alors si on va trop vite, on... voilà. Et puis Jérémie, surtout, est très important pour nous, parce qu'il est souvent cité dans le Nouveau Testament. 74 fois, il est fait référence à Jérémie dans le Nouveau Testament. Donc c'est un prophète important. C'est un prophète qui vivait dans une époque très difficile. C'est à la fin du 7e siècle avant notre ère. C'est un moment, c'est la charnière entre la fin du 7e et le début du 6e siècle. C'est un moment très difficile pour les habitants du royaume de Juda. Juda, c'est le petit royaume dont Jérusalem est la capitale et qui est un tout petit royaume et qui est aux prises avec les grands empires de son temps. Toutes les grandes forces géopolitiques qui bougent dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient, sont un danger pour ce petit royaume de Juda, et en particulier l'immense empire de l'époque qui est l'empire de Babylone. Les Babyloniens sont la puissance qui monte et qui peu à peu grignote et s'empare de plus en plus de peuples et de pays. Et alors voilà, ce petit royaume de Juda est pris dans cette peur. Et effectivement, quelques temps après, en 587, avant notre ère, Nabucodonosor, le roi de Babylone, va venir s'emparer de Jérusalem, détruire la ville, détruire le temple, emporter une partie de la population en exil à Babylone. Ça va être un moment dramatique pour le peuple hébreu. C'est dans cette période-là que le prophète Jérémie déploie son ministère de prophète. Et ça commence aux alentours de 627, quand il reçoit sa vocation, quand il est appelé par Dieu. Jérémie, alors, est un homme tout à fait banal, qui n'a rien de particulier. C'est un paysan qui habite un petit village à 6 km de Jérusalem. Il est le fils d'un petit prêtre, d'un petit sanctuaire local. Enfin, c'est un homme du peuple tout à fait banal, on pourrait dire. Et un jour, la vocation lui tombe dessus. Un jour, la parole de Dieu s'adresse à lui et l'appelle à devenir, en hébreu on dit « nabi », ce qui est un mot qui veut dire à la fois « celui qui est appelé, qui reçoit une parole, et puis celui qui va dire une parole, qui va porter une parole ». Ce mot « nabi », il est traduit en grec par le mot « prophétesse », qui a été transcrit en français par « prophète ». Le prophète, c'est celui qui reçoit une parole de Dieu et qui est ensuite chargé de la partager. C'est un témoin, on pourrait dire. Voilà que Jérémie est appelé par Dieu à devenir témoin. Et vous l'avez entendu, Jérémie a peur. Les témoins ont peur. Étrange résonance directe avec ce graffiti qui se trouve sur un mur à Malakoff. Les témoins, Jérémie, le premier, les témoins ont peur. Et je me suis dit, voilà qui est intéressant en fait. Un récit d'il y a 2600 ans cogne directement avec non seulement ce graffiti, mais plus profondément, ce qui peut nous habiter de peur de devenir témoin. Alors je me suis dit, c'est intéressant du coup de relire ce récit de la vocation de Jérémie, non pas comme la vocation un jour d'un homme il y a 2600 ans, mais comme pour chacun de nous, notre vocation aujourd'hui. L'entendre, chacun de nous comme le petit Jérémie qu'il est. Nous sommes tous Jérémie dans ce temple ce soir, et donc c'est pour nous que cette parole nous est donnée. Je vais la reprendre, et notamment en 5 étapes qui se trouvent dans ce récit de vocation, et qui se retrouvent dans la plupart des récits de vocation dans la Bible. Les mêmes étapes, 5 étapes. C'est très intéressant de se dire que quand c'est la vocation d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Moïse, de Gédéon, de l'apôtre Paul, il y a chaque fois les mêmes étapes qui se trouvent dans ce récit de Jérémie. Ça veut peut-être dire que pour notre propre vocation, il y a les mêmes étapes. Alors je vous invite à cheminer dans ces étapes qui sont comme autant de défis pour nous, pour notre existence. Première étape, premier temps, Dieu se manifeste. Dans tout récit de vocation, c'est Dieu qui se manifeste. Dans notre texte, ce soir, la parole du Seigneur me fut adressée. Alors nous avons parfois, dès le début de ce texte, une petite résistance pour se dire « Mais voilà, moi je n'ai jamais entendu la parole de Dieu, la voix de Dieu. J'ai jamais entendu une voix résonner et me dire des mots clairs. Je n'entends pas des voix. » Et la plupart d'entre nous, c'est ça. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne nous parle pas. Dieu ne parle pas forcément et uniquement et heureusement par une voix qui nous tombe dessus. Il nous parle par plein de manières différentes. Pour certains d'entre nous, ça peut être simplement un verset qui un jour a résonné. Ça peut être une parole qu'on a entendue. Ça peut être un événement qu'on a traversé, et où on se dit « là, il y a quelque chose de Dieu ». Ça peut être par exemple ce verset que l'on nous dit quasiment à tous les débuts de culte, et que Lionel a redit tout à l'heure, « que la grâce et la paix soient avec toi ». Ça peut être une parole de Dieu pour nous. La parole de Dieu, elle ne s'entend pas forcément. D'ailleurs, il n'est pas sûr que Jérémie lui-même l'ait entendue. Jérémie raconte longtemps après ce qui lui est arrivé. Il ne décrit pas un événement, il partage une expérience de foi. C'est un témoignage qu'il donne en quelque sorte. Quand il dit « la parole de Dieu m'a été adressée », il ne nous dit pas « j'ai entendu des voix ». Il nous dit « j'ai reçu l'appel de Dieu ». Alors je voudrais juste parler de moi quelques minutes, en toute immodestie, juste après Jérémie. Donc désolé, mais si je dis que ça nous concerne chacun, ça me concerne aussi moi en fait. si je suis devenu pasteur, c'est pas parce que j'ai entendu des voix. J'ai jamais entendu le timbre de voix de Dieu ou des mots explicites qui me sont tombés dessus. Si j'ai eu envie de devenir pasteur, c'est que dans mon enfance, mon adolescence, j'ai été marqué à plein de reprises par un récit entendu à l'école biblique, par une séance de catéchisme, par un moment vécu en groupe de jeunes. Et j'ai senti que c'était quelque chose qui me parlait. Et à un tel point que j'ai eu envie d'en faire quelque chose dans mon existence, et que je me suis dit, tiens, devenir pasteur, c'est continuer à vivre de ça et le partager. Jamais je n'ai entendu donc la voix de Dieu, mais je peux dire très tranquillement et avec plein de sérénité et de certitude quasiment que c'est Dieu qui m'a parlé, que c'est la parole de Dieu qui m'a appelé à devenir pasteur. Oui, ce n'est pas forcément une parole audible. C'est une parole parfois plus subtile, plus presque indicible. Et c'est là le premier défi qui est devant nous, c'est d'entendre quand Dieu nous parle. C'est-à-dire de laisser un espace, quand nos vies sont pleines d'agitation, de soucis, de choses à faire, de s'arrêter pour pouvoir entendre Dieu qui nous parle. Prendre le temps de la disponibilité, on pourrait dire. C'est pour ça que le culte nous est proposé chaque semaine, pour qu'on ait un temps où on s'arrête et on écoute. C'est pour ça que chaque jour, nous sommes invités, chacun pour lui-même, à trouver un petit espace de temps pour lire un verset biblique, pour prier, pour s'arrêter, pour être disponible à Dieu. Oui, Dieu nous parle, mais pour pouvoir entendre sa parole, il faut souvent se mettre en disponibilité. Premier défi. Deuxième temps, Dieu parle et ce qu'il dit, c'est un appel à une mission particulière. Dieu, dans sa parole, envoie le prophète. Là, dans le cas de Jérémie, il lui demande de devenir son porte-parole dans le monde, auprès de tous ceux qu'il rencontrera. Et dans le temps de crise qu'il est en train de traverser, Dieu précise même, ça sera déraciner et démolir, casser, détruire, reconstruire et replanter. C'est une mission forte que Dieu donne à Jérémie. C'est une mission à la fois de protestation et d'annonce. C'est à la fois de la colère et du pardon. C'est à la fois critiquer et espérer. C'est à la fois résister et construire. Tel est l'engagement auquel chaque chrétien est appelé dans le monde. Dans ce monde où il y a tant et tant de choses qui enferment les êtres humains, qui les privent de liberté, qui les aliènent, qui les écrasent, qui les étouffent, que nous avons besoin de détruire l'injustice, de casser toute la haine qui peut s'emparer de beaucoup de personnes ou de systèmes, que nous avons besoin de lutter contre cela. Et puis aussi de planter, de reconstruire, c'est-à-dire pas simplement de dénoncer, mais aussi de dire et de montrer qu'il est possible de vivre ensemble. C'est un appel pour chacun de nous à ne pas rester chacun dans son coin, replié loin du monde, mais au contraire, en ayant entendu la parole de Dieu qui s'adresse à nous, à la vivre dans le monde, à être résolument engagé dans le monde. C'est au cœur du protestantisme cela. Dès le début de la réforme, les réformateurs ont dit « La parole de Dieu qui s'adresse à nous, notre vocation de chrétien, ce n'est pas de sortir du monde, c'est au contraire d'être dans le monde et de s'engager résolument là où nous sommes. » Deuxième défi, entendre que Dieu nous appelle à s'engager dans ce monde. Et puis il y a un troisième temps. C'est peut-être le temps dans lequel vous êtes en ce moment même à ce stade de la prédication. C'est le moment où on s'est dit, bon d'accord, mais pourquoi moi? Il y en a d'autres, plus compétents, plus disponibles, plus ouverts à être dérangés peut-être. Pourquoi moi? Et alors là, on a plein d'objections qui montent pour essayer d'éviter en fait la mission que Dieu nous donne. Jérémie, comme tous les prophètes, comme tous ceux qui sont appelés dans la Bible, a une objection. Lui, la sienne, c'est « je suis trop jeune ». Alors, ce n'est pas une question qu'il serait un enfant, c'est une question sociale. C'est que dans son temps, Il fallait attendre l'âge de 30 ans pour avoir le droit de parler en public. Donc Jérémie n'est pas forcément un enfant. Peut-être qu'il a simplement 28 ans, ce qui est un âge mûr déjà à son époque, mais qui socialement n'est pas encore l'âge où on est autorisé à parler. C'est-à-dire qu'il n'a pas les compétences que la société attend de quelqu'un qui doit parler. Il n'a même pas le droit. Alors pour lui, il dit, voilà, Dieu se trompe. Si Dieu veut que je sois son porte-parole, autant qu'il appelle quelqu'un dont le monde ou la société attendra que cette personne parle. Pourquoi moi ? C'est une vraie objection, hein, que dit Jérémie. C'est des vraies objections souvent qu'on a quand on se sent appelé à s'engager pour ne pas y aller. C'est parfois vrai qu'on n'est pas compétent. C'est même souvent vrai. Alors là, c'est le troisième défi qui est devant nous. Quand nous entendons qu'une parole de Dieu s'adresse à nous pour nous appeler à nous engager dans le monde, pouvoir très sereinement dire « je ne suis pas compétent en fait ». Mais pas le dire comme un obstacle pour dire « je ne veux plus entendre parler de rien », mais comme une disponibilité. À dire « tu sais Dieu, j'entends bien que tu m'appelles, mais voilà, je suis tel que je suis, peut-être pas à la hauteur ». Et alors là arrive le quatrième temps, c'est que Dieu entend cette objection et il y répond. Et sa réponse, c'est de dire « tu peux compter sur moi ». À Jérémie qui dit « je suis trop jeune », Dieu va dire cette phrase bouleversante « n'aie pas peur, car je suis avec toi ». N'aie pas peur, car je suis avec toi. Moi, chaque fois que je lis ou j'entends cette phrase, j'ai l'impression que Dieu me parle. Et j'entends, n'aie pas peur, Christian, je suis avec toi. Parce que c'est une phrase où Dieu se donne auprès de Jérémie. Il lui dit en quelque sorte, tu as peur, je l'entends. Mais en moi, tu peux ne pas avoir peur. Ce n'est pas pour ce que tu peux produire que je t'appelle. C'est parce que je t'appelle que tu peux produire des choses. Un prophète n'est pas quelqu'un qui sait bien parler. Un prophète, c'est quelqu'un par qui Dieu parle. Jamais quelqu'un ne s'autoproclame prophète dans la Bible. C'est toujours l'appel de Dieu. C'est toujours la force que Dieu donne qui permet d'être son témoin. Et c'est ainsi que je comprends cette phrase que Dieu dit aussi à Jérémie. « Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. » J'entends dans cette phrase, tout simplement, une manière pour Dieu de dire « ce n'est pas une question de tes compétences, c'est une question de mon regard sur toi. Je n'ai pas attendu de savoir si tu avais des compétences avant même que tu existes. J'avais choisi de t'appeler, de t'aimer et de me donner ta force. » Je trouve que c'est extrêmement réconfortant, ce texte. « Je suis avec toi », ça suffit pour pouvoir s'engager dans le monde. Quatrième défi, c'est se laisser porter par cette confiance que Dieu nous donne et met en nous. Et puis cinquième temps, comme dans tout récit de vocation, Dieu donne un signe. À Jérémie, il tend la main vers lui, il lui touche la bouche. Il entre en contact avec lui, on pourrait dire. Il entre en relation, il l'autorise à parler, il lui transmet sa parole. On a un petit peu discuté de ce texte dans le groupe 19-30 ans qui s'est réuni juste avant. Et on se disait, voilà, il y a une image du Saint-Esprit sans doute là-dedans. Cette transmission par Dieu de sa parole en Jérémie, pour que Jérémie puisse la porter. C'est le signe que Dieu lui donne. Alors nous, on aimerait bien avoir des signes. Et puis, les signes de Dieu, c'est comme la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours direct. Parfois même, on peut passer à côté. Et je me demande si souvent on ne passe pas à côté parce qu'on pense qu'un signe, c'est une preuve. Mais un signe, c'est jamais une preuve. D'ailleurs, quand Jésus fait des signes dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui croient en lui, mais d'autres qui n'y croient pas. Un signe n'est pas une preuve. Un signe, c'est une manifestation de la présence. Comme toute présence, toute amitié, on peut passer à côté. Cinquième défi, recevoir le signe de sa présence que Dieu nous donne. Et ce signe, Il est en particulier dans un moment que nous vivons à chaque culte et que nous allons vivre tout à l'heure, quand nous partageons le pain et le vin de la scène. Ça nous signifie la présence de Dieu parmi nous. Ça nous donne cette force que Dieu nous donne pour que nous soyons ses témoins. Défi de le recevoir et d'en vivre. Alors voilà, Dieu dit à Jérémie, tu seras mon porte-parole. Jérémie entend que c'est Dieu qui lui parle. Jérémie entend la mission qui lui est donnée. Jérémie objecte à la mission. Jérémie entend que Dieu lui dit, mais n'aie pas peur, je suis avec toi. Et Jérémie reçoit ce signe de l'Esprit de Dieu qui lui est donné. À notre tour de recevoir tout cela, pour être, comme dit Jésus, ses témoins, vous serez mes témoins, dit-il. Ailleurs, il y a 36 000 manières d'être témoins, bien sûr. Certains d'entre nous sont assez à l'aise pour pouvoir parler de leur foi à un voisin, à une connaissance. D'autres sont facilement disponibles pour répondre à un appel de l'Église et à s'engager dans un conseil presbytéral, dans une équipe de catéchètes, pour visiter d'autres. Certains sont disponibles pour s'engager dans l'entraide et les nombreuses actions de solidarité qu'a notre Église. D'autres s'engagent dans leur vie professionnelle, dans la vie associative, dans la vie politique, dans d'autres endroits de l'existence humaine. Peu importe la manière ou les manières, tous nous sommes appelés à cet engagement. Tous nous sommes Jérémie et tous nous sommes portés par la présence de Dieu. Tous nous sommes des témoins. Alors est-ce que les témoins ont peur? Si on est témoin de Jésus-Christ comme Jérémie a été témoin de Dieu, c'est pas toujours facile, mais porté par le Christ, c'est joyeux. Ce n'est plus quelque chose dont nous avons peur. Alors je suis repassé devant ce graffiti. Et je me suis aperçu, on ne le voit pas trop sur la photo, mais qu'il y avait un tout petit graffiti à côté, complètement à droite, juste après le mot « peur ». Vous voyez, ça ressemble à une tache, vu d'ici. Hein. Mais si on zoome, il y a écrit « Amical des témoins ».« Amical des témoins ». J'ai trouvé ça énorme. Je ne sais pas du tout à quoi ça fait allusion, ce graffiti. J'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé. Hein. Mais je me suis dit « Amical des témoins ». Et je termine par là. C'est très intéressant. Les témoins ont peur. On a peur, forcément, si on est tout seul et écrasé par une mission. Mais porté par Dieu, on peut ne pas avoir peur, comme il nous le dit. Et entouré par d'autres qui sont aussi témoins, alors là, pour le coup, on peut être plus joyeux et serein dans le fait de témoigner. On n'est pas tout seul quand on est témoin. Il y a une amicale des témoins. Alors nous, on l'appelle « Église ». Mais c'est ça, en fait. L'Église, c'est l'amicale des témoins. Alors, mes amis de l'amicale des témoins, nous tous qui sommes membres de cette amicale, nous tous, Jérémie, sommes appelés par ce récit à entendre que c'est Dieu qui nous parle, que c'est Dieu qui nous envoie, que c'est Dieu qui nous demande, tel que nous sommes, à recevoir sa force, à recevoir sa présence et à être ses témoins dans le monde. Alors puissions-nous chacun entendre cet appel et puissions-nous chacun et ensemble y répondre comme nous le ferons dans un instant en chantant le cantique qui dit « Seigneur, tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir, il sera mien. » Amen.